100 000 camions à la Wehrmacht. Berliet fournit 2,5% de ce total. Marius Berliet, qui ne s'est pas ménagé d'appui auprès de la résistance, est emprisonné le 4 septembre 1944. On voit bien que l'histoire continue de se raconter toujours du même côté, d'où peut-être l'intérêt de retrouver Annie Lacroix-Riis.
Berliet est impliqué dès l'été 1940 dans la fourniture à l'Allemagne, dans la fourniture militaire, bien sûr, à l'Allemagne. Et 100%, je dis 100% de la production est affectée à l'Allemagne. 100%, pas 85, pas 25, pas 50, 100%. Sachant que, il faut le rappeler, Berliet se trouve en zone libre qui, formellement, ne dépend pas de l'Allemagne jusqu'à l'invasion de novembre 1942. Alors, ça, c'est le premier point, c'est la production de chars, production de camions, dont aucun n'a rejoint la production française. Je dis bien aucun, et les statistiques, à cet égard, sont catégoriques.
Ça, c'est Berliet, enfin, ses fils ont toujours dit que, finalement, il cherchait juste à faire tourner son entreprise, et à qui il vendait ça, bon, il regardait pas beaucoup, quoi.
Le problème, c'est que c'est pas logique de gestion, c'est profit maximum, et le profit maximum suppose le salaire minimum, et le salaire minimum suppose une politique impitoyable à l'égard de la main d'œuvre, parce que pour casser les salaires, il faut que vous cassiez les gens. Et il se trouve que, évidemment, de 1940 à 1944, il est d'autant plus facile de casser la main d'œuvre que l'occupant est là. Et on dispose d'un ouvrage qui, à ma connaissance, n'est pas traduit, d'un auteur anglophone qui s'appelle Adam Steinhaus. Et Adam Steinhaus admet que l'atmosphère de l'occupation a été, chez Berliet, caractérisée, je le cite, par le règne de la terreur, sachant que tout le service de sécurité est assuré par des miliciens, c'est-à-dire ces anciens croix de feu, cagoulards, PPF, etc., qui dénoncent les ouvriers, qui les livrent à la police. Et à partir de 1942, c'est le fils aîné de Marius Berliet, Jean Berliet, qui devient chef du personnel. Et évidemment que tout un chacun voit en permanence, en négociation, en discussion, Jean Berliet avec les responsables miliciens du personnel. Et Berliet n'a même pas, au contraire de la légende, n'a aucunement protégé son personnel contre le service du travail obligatoire. D'ailleurs, Berliet organise une première levée de main-d'œuvre esclave, évaluée à plusieurs centaines de travailleurs, disons entre 500 et 600 sont partis. Et comment sont-ils partis en équipe? Chez Bussingnag, à Brunswick. Eh bien, avec à leur tête deux des fils de Berliet, Henri et Maurice, ce qui montre à quel point le cœur de la direction s'est impliqué dans la répression anti-ouvrière, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune protection du STO. Et même le service milicien est mobilisé pour organiser cet aspect aussi de la répression. Hein. Alors, il est clair qu'on est là dans un des cas qui explique la nécessité de la réquisition au lendemain de la libération. Réquisition qui s'est traduite chez Berliet par la participation des ouvriers français après la libération. Courte participation qui a laissé évidemment des souvenirs éblouis à ceux qui l'ont connu.
Toujours à Lyon, la prison militaire du fort de Montluc, ensanglantée par la Gestapo, a changé de pensionnaire. On est pur et on arrête.
France Libre, actualité, 23 septembre 1944.
Les prisonniers d'hier sont aujourd'hui devenus les gardiens de leur geôlier. Les hommes de la Gestapo et les miliciens connaissent maintenant l'autre côté des portes de prison. Ici, on a mis à l'abri les grands personnages. L'ancien maire de Villeurbanne. Monsieur Vissot, fabricant de lampes. Monsieur le procureur de l'État français. À l'infirmerie, Monsieur Berliet des automobiles repose sur un matelas qui n'est peut-être pas pneumatique.
Bon.
Ouais, bah là, je me trouve à Saint-Priest.